Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Et moi, j'aime l'entreprise.
On pourrait faire buter le patron par un professionnel.
J'aime l'entreprise.
Là, je mettrais plus les pieds dans cette tôle, là.
Faut que tu rationalises.
Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. On est toutes noires, hein.
Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1.
Mais quel patron?
C'est la solution la plus rentable. Donc, pas seul.
Sans publicité, il n'y aurait plus liberté d'idée.
Il y a un troussage de domestiques, je vois, c'était pas bien.
Mot d'ordre central brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Jean-Louis Renard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Média Angers Filiales. Vous êtes, un homme de la grande distribution. Vous êtes un ancien de la FNAC, de Castorama, également de Gosport. Mais vous êtes surtout, depuis 2010, dans le groupe Virgin Megastore France, dont vous êtes aujourd'hui le PDG. Je rappelle quelques chiffres clés là. C'est donc 30 magasins en France, sans compter des franchises à l'étranger. Un chiffre d'affaires de 340 millions. Il y a quelques semaines, le 8 novembre, vous avez annoncé vous lancer dans la bataille du livre numérique. Vous êtes d'ailleurs venu avec deux liseuses de livres électroniques, à la fois le Knaus et Amazon, qui est un peu le produit star, notamment aux États-Unis, et avec une PME française. On voit qu'il y a une effervescence sur ce marché en France. Est-ce que les ventes sont là?
Alors nous pensons que les conditions sont aujourd'hui réunies pour que le marché explose.
Explose. Livres inclus et plus de 100 000 livres en français à télécharger. Liseuse Milouk, 69,90 €. En exclusivité chez Kofrey.
Cerné de toutes parts, le livre est sommé de rentrer dans l'ordre numérique. Laboratoire du futur plus innovant que jamais, multinational du web, géant de l'électronique, pouvoir public et techno-enthousiaste œuvrent de concert pour faire disparaître ce petit cube de papier qui fait figure de fossile à l'heure où la culture numérique s'impose partout. Bien que sa liquidation ne fasse pas aussi vite que prévu, le marché de l'e-book peinant à s'imposer en France, les acteurs de la chaîne du livre sont de plus en plus fragilisés. Même si certains croient pouvoir transférer leur métier dans un monde qui n'a pourtant pas besoin d'eux. Et ce, alors que les modes de lecture induits par le livre, au fondement de nos façons de penser et de nos manières d'être au monde, sont aujourd'hui en crise. Le livre, dans sa linéarité et sa finitude, dans sa matérialité et sa présence, constitue un espace silencieux qui met en échec le culte de la vitesse. Permet de maintenir une cohérence au milieu du chaos, point d'ancrage, objet d'inscription pour une pensée critique et articulée, hors des réseaux et des flux incessants d'informations et de sollicitations. Il est peut-être l'un des derniers lieux de résistance. C'est ce que nous rappellent les libraires, bibliothécaires, éditeurs, auteurs, traducteurs et lecteurs, venus d'horizons divers qui s'expriment dans cet ouvrage. Un peuple du livre, réfractaire aux illusions numériques, qui défend ce pourquoi il se bat au quotidien, à contre-courant de processus qui endommagent nos capacités de lecture, de contemplation, de réflexion, d'écoute et d'abandon esthétique, pourtant si nécessaire à la construction de soi et au bien-être collectif. Je viens de vous lire le quatrième de couve de L'assassinat des livres, pour ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde, qui est un livre collectif qui fait plus de 500 pages, qui est sorti sous la collection Frankenstein à l'échappée, et qui regroupe tous les métiers du livre, qui témoignent en fait contre cette supposée fin du livre qui doit arriver, qui serait inéluctable. Et donc pour ça, il y a des bibliothécaires, des éditeurs, des lecteurs et aussi des personnes qui s'occupent de librairies. Et là, on a décidé d'interviewer Bastien qui a participé à une partie de la coordination de ce livre et qui est libraire à la librairie Quilombo et qui est aussi le co-auteur d'un des articles qui s'appelle Le social comme moyen et comme fin, voilà, qui a été écrit par la librairie Quilombo. Bastien, peux-tu nous donner en fait un peu le contexte ? Pourquoi avoir écrit ce livre ?
L'idée à la base, c'était de continuer le travail du collectif Livre de Papier, dont moi et mes collègues de Quilombo sommes membres, et en sachant qu'il nous fallait un objet de réflexion autour du livre numérique, un peu plus précis, etc. Donc on cherchait à évoquer par profession comment le numérique allait arriver dans le milieu et tout bouleverser dans le livre, etc. Et qu'est-ce que ça voulait dire, où ça allait accompagner. Donc l'idée de ce bouquin à la base a germé comme ça, et au fil du temps c'est les éditeurs de L'Échappée qui ont pris le relais parce que le collectif est désormais un peu moribond. Mais voilà, on a tous plus ou moins contribué à l'intérieur, etc. Moi, j'ai participé aux textes sur la librairie, et puis après, il y a d'autres textes sur les bibliothèques, sur les éditeurs, sur la lecture aussi, des choses comme ça.
Le concept du bouquin, c'est-à-dire qu'il y a, les éditions, il y a les bibliothèques, il y a les librairies qui sont interviewées. Est-ce que tu peux dire un peu sur quel thème et pourquoi en fait avoir mis ces différents acteurs du livre ?
Mais en fait, moi, je pourrais plus préciser pourquoi nous, on est parti sur ce sujet-là à Quilombo. Parce que j'imagine que les autres auteurs, c'est un peu les mêmes raisons qui les ont poussés, mais je ne peux pas répondre à leur place non plus. Mais nous, on est plus ou moins confrontés au numérique. Je dis plus ou moins parce qu'il y a la menace de Amazon, des sites internet de vente en ligne. Mais il y a aussi le fameux e-book. On avait été contacté il y a quelques années pour savoir si on était prêt à mettre une borne e-book chez nous. Donc évidemment, on s'était empressé de les envoyer chier. Mais voilà, c'est une menace à long terme. Après, à court terme, quand on voit l'affluence et le travail qu'il y a chez nous, etc., ça joue pas vraiment. Nous, on est sur un autre sujet. On n'est pas uniquement sur la vente du livre. On est sur tout le rapport social qu'il y a autour. Donc voilà, c'est un peu ces sujets-là, ces thèmes-là que je cherchais moi à évoquer dans ce texte en général, quoi.
Donc en fait, c'est un texte voilà, qui a été écrit en commun avec tous les gens qui travaillent à Quilombo.
Précisément, c'est moi et mon collègue Jacques et qui l'avons élaboré ensemble, et après je l'ai rédigé.
Et il parle avant tout en fait du lien que vous avez avec je sais même pas comment les appeler, les gens qui passent à la librairie, qui sont pas forcément consommateurs. Vous l'expliquez aussi. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'assez théorique. En fait, c'est quelque chose d'assez simple de rapport humain, d'exemple que vous mettez en avant. Est-ce que tu peux un peu décrire ce qui a été écrit ?
Mais en fait, c'est le constat que nous, on fait tous les jours à la librairie, mais si nous, on est sur un secteur politique, on vend des livres politiques, on a de fait des débats politiques et théoriques, etc. dans la librairie. Mais ce qui compte avant tout, c'est le rapport qu'on a avec les gens, c'est dire bonjour, dire au revoir, dire qu'est-ce que vous cherchez, dire « Ah, je peux vous proposer ça, on a ça sur tel thème, machin, alors comment ça va ?» Et puis voilà, on discute avec les gens, on s'enquiert de savoir comment ils nous ont trouvés, ce qu'ils veulent chercher, ce qu'ils veulent trouver, des choses comme ça, ce qu'ils font dans la vie, quel a été le parcours de la dernière manif. On peut questionner tout et discuter de tout. Hein. Nous, on est là pour ça aussi, il n'y a pas de souci.
Donc Quilombo, c'est une sorte de rôle de transmission. Vous dites aussi que ça ne suffit pas d'avoir des livres comme ça disposés. Il faut savoir aussi discuter, échanger. Vous-même, vous avez eu vous avez appris des choses, des gens qui cherchaient des bouquins, donc il y a un échange constant avec les gens qui passent à Quilombo.
Oui, c'est exactement comme ça que jaillissent les étincelles, et c'est ces étincelles qui nous font avancer les uns les autres, et c'est aussi le rôle physique du lieu d'avoir des gens en face de soi et de ne pas les mépriser, d'en profiter à fond et de mettre en valeur ce rapport-là, quoi. Nous, on n'est pas juste des marchands de papier. On n'obéit pas à des gens qui nous disent « Tiens, sortez-moi tes livres », etc. On favorise la curiosité, en gros. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où les gens vont, mais l'un dans l'autre, l'un avec l'autre, on peut peut-être arriver quelque part.
Est-ce que tu peux aussi présenter Quilombo ? C'est vrai qu'on a passé un peu vite. Peut-être que les auditeurs de Radio Libertaire connaissent Publico, qui est à peu près, qui ressemble aussi à Quilombo, on va dire. Après, c'est beaucoup de livres, pas forcément libertaires chez Quilombo, c'est plus aussi la gauche en général, on va dire.
Alors du coup, pour présenter un peu Quilombo, on dira juste que c'est une librairie associative qui a ouvert ses portes en 2002. Et le fait que ce soit une asso, ça nous est toujours utile parce qu'on ne s'adosse à aucun groupe politique, syndical ou autre. On est vraiment une asso autonome et on ne s'occupe que de la librairie. Et aussi, ça nous est utile dans le sens où on ne fait pas de profit. On n'est pas là pour ça. On est autogéré. On est 6 membres, 2 salariés, 4 bénévoles. Et on fonctionne tous ensemble, sans hiérarchie, sans patron et sans profit.
Donc il y a 2 salariés, hein, comme tu disais. Et après, voilà, il y a eu un agrandissement récent de la librairie. Il y a aussi des débats et un catalogue assez particulier aussi. Donc il y a plein de choses qui sont faites autour de ça. Est-ce que tu peux en parler brièvement ?
Oui. Alors voilà, nous on fait régulièrement des débats, disons une fois tous les 15 jours, à peu près autour de paritions récentes. Et soit dans les locaux même de librairie, parce que là on les a agrandis en mars dernier. Donc maintenant, on peut faire des petits débats chez nous, mais quand c'est des gros débats, on a une salle qui nous attend au CICP, Centre International de Culture Populaire, qui est le bâtiment juste à côté, qui en fait est une maison d'association dont nous, on fait partie parce qu'on est une asso, etc. Et donc, on travaille aussi pas mal avec les assos du centre, qui sont plutôt de solidarité internationale et de gauche militante diverse. Et voilà, et on travaille pas mal avec eux, on s'entend bien avec eux et on bénéficie des apports de ce centre, de cette maison.
Tu parlais du catalogue, une volonté aussi de référencer tous les ouvrages par thème. Donc souvent les catalogues c'est assez restreint, là c'est vraiment quelque chose de pas... Ça peut pas être exhaustif, mais c'est très très complet. En tout
on
cas.
Essaye de mettre en valeur des nouveautés surtout, et puis quelques ouvrages de fond, mais après, si on devait lister tous les ouvrages qu'on a en rayon, on n'y arriverait pas, notre catalogue ne suffirait pas, il en faudrait 4 ou 5 comme ça chaque année, et déjà en faire un, c'est beaucoup.
Il fait pas mal de pages, je ne me rappelle plus exactement, c'est plus de 50, je crois.
Je crois qu'on a 64 pages pour l'instant.
Coup d'œil à la sauvette pour pas trop reconnaître les taches de café qui résident dans les bas-fonds de ma moquette. La chambre agresse ma rétine, le rêve s'envole en solex. On fume l'air qui se dessine sous le coup d'œil obsolète. Mon estomac est poète face au cerveau englouti, alourdissant le sol soumis à mes paupières engourdies. La platine tourne en roue libre, cherche le bon outil, me tambourine, me demande un son cool qui pantouflie. J'ai la galette en vinyle incrustée dans la tiraille de ces disques, je chine assez loin pour voir la muraille. Une ouverture d'esprit sur tellement de styles de zik que les esprits se brise sur chaque écoute prise de risque. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprend qui comprend, mais qui comprend, comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage, c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage, c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Si les problèmes du quotidien se noient dans le vide, c'est qu'ils sont en bois et mon monde en dents de scie. Ton monde réel n'est qu'un gouffre d'ennuyeuses gamelles face aux pages que j'ouvre qui s'écartèlent sans repli. Mes livres sont ma pègre, mon cartel et les idées bastonnent. Si bien que si je les ferme, ils disent que je déballonne. Esprit tellement élargi par des questions formelles. Comment aider Yakari à civiliser John Wayne? Les mondes me bousculent, c'est ce qui sent gravitation. L'art a pris tant d'avance sur la mondialisation. Imaginaire invente ce que la vérité récupère et nous emmène à la lisière de nos futures actions. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprend qui comprend, mais qui comprend, comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage, c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu
tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface, voici le carnet de voyage dans l'aide sur place. Le monde extérieur n'est pas si riche, il ne fait que s'inspirer, s'imbriquer, s'impliquer. C'est pas qu'il triche, mais comment veux-tu que le quotidien m'aguiche quand mes rêves s'illuminent d'un univers trop grand pour les affiches. Les temps anciens ou nouveaux, c'est le monde que je colocationne dans ma chambre si peu passionne que la mode ne me pardonne. J'ai par contre un horizon de taille qui m'évasionne, car il se rationne du portail que mes quatre murs plafonnent. Loin des soucis beuglants, que tous vos récits bégayent, loin de ce monde et de ces temps que les aigus déblayent, loin des endroits décevants, appelés monts et merveilles, jugés par des prunelles, encore trop centrés sur les semelles. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprends qui comprend, mais qui comprend, comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse les limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste percer, tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface, voici le carnet de voyage d'en être sur place. Tous tes kilomètres t'ont juste percé, tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface, voici le carnet de voyage d'en être sur place.
Rossé, carnet de voyage d'un être sur place, qui était sorti dans l'album L'être humain et le réverbère. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, c'est l'émission Offensive Sonore qui continue jusqu'à 22h30. On revient sur l'interview de Bastien. Le côté rôle social de Quilombo, donc d'être là, comme tu disais, pour rencontrer les gens, pour leur, voilà, pour avoir un échange. Il y a aussi, donc, est-ce que ça va aussi jusqu'à politiser les gens qui y passent, qui ne seraient pas politisés autrement ?
Indirectement, oui. Après, on ne peut pas savoir comment les gens qui passent sont politisés. Nous, l'échange qu'on a avec eux, il dure quelques minutes. Donc, tu ne peux pas savoir en quelques minutes, ah, mais tiens, tu penses ça, mais tu devrais penser ça et tout. Enfin, où est-ce que les gens sont dans leur vie et dans leur rapport à la politique ? Ça, tu ne peux pas le savoir directement. C'est à toi à l'estimer, à le jauger, à proposer, à discuter, et à t'avancer un peu en fonction de cette estimation à la louche que tu vas faire. Et c'est aussi, d'une certaine manière, prendre soin du lecteur, du client. Savoir s'enquérir de ce qu'il veut, c'est aussi savoir où il en est et ce dont il a besoin. Nous, on n'est pas des moines soldats et on n'est pas là pour évangéliser les gens qui viennent acheter des livres chez nous, quoi.
Oui, et puis il y a aussi, vous dites aussi, vous êtes sur le CICP. C'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui sont très marqués politiquement, qui ont des idées très strictes. Donc, ce n'est pas forcément facile de discuter avec tout le monde. Mais voilà, ça permet d'ouvrir ses horizons. Et puis, c'est la vie aussi.
Oui, exactement. Ben, je prendrai pour simple exemple nos voisins directs, c'est Attac. Attaque, c'est pas forcément notre tasse, mais les gens, les militants sont là, ils viennent, ils achètent des livres dans le temps chez nous, etc. Et on a des rapports avec eux extrêmement cordiaux et il n'y a pas de souci de ce côté-là, tout va bien. Quoi. On n'est pas là pour en faire des anarchistes non plus, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur autonomie, nous on a la nôtre et on se côtoie. Nous on essaye de tirer la couverture de notre côté, mais en toute délicatesse, quoi, on va dire.
Et donc, il y avait aussi cette idée-là. Je ne sais pas s'il y avait des choses à rajouter sur l'histoire de Quilombo, sur des choses comme ça, peut-être. Non. Ok. Donc, il y avait aussi l'idée qui est souvent mise contre les librairies. C'est, voilà, enfin, le livre, il n'est pas accessible facilement. Il faut l'acheter. Il y a aussi cette idée que le livre il est trop mis en avant, que le livre serait sacralisé et qu'il faut dépasser ça. Et donc il y a plusieurs idées après derrière. Il y a l'e-book qui est pas forcément qui est pas forcément mis en avant dans les côtés militants. Mais il y a par exemple l'idée de faire des brochures gratuites, des choses comme ça. Vous tenez quand même à ce que le livre. Vous pensez qu'il doit être mis en avant, vous pensez qu'il a une importance, vous utilisez le mot sacré entre guillemets parce que vous pensez qu'il n'est pas sacré pour autant.
En fait, les guillemets autour du terme sacré, c'est essentiellement pour signifier que si on utilise nous le terme sacré, c'est sans connotation religieuse aucune, c'est uniquement un objet qui ouvre des portes et qui apporte quelque chose d'incommensurable dans le je sais pas comment dire, la quête de soi, l'estime de soi, l'élévation de soi, et donc de la société qui va autour. Et pour ça, le livre, c'est un objet complètement, entre guillemets, sacré. Rien n'a autant de valeur et de puissance que le livre pour ça, quoi, pour savoir où on en est, pour savoir qu'est-ce que c'est que cette société qui est autour de nous, comment ça marche, et comment s'en départir, comment aller vers autre chose, comment proposer autre chose, etc. Si on ne fait pas cette démarche-là de manière introspective, on n'y arrivera pas. Il n'y a aucune société qui ne marche avec des ordres, avec des diktats donnés par les autres, avec des règles édictées auxquelles tout le monde devrait se conformer. Il faut impérativement que l'individu y arrive par lui-même. Et la meilleure manière que l'individu y arrive par lui-même, c'est qu'il lise. Et voilà, et qu'il fasse travailler son intériorité et qu'il s'élève petit à petit, etc. Et pour ça, oui, le livre a un côté complètement sacré qu'il faudrait pouvoir étendre le plus possible, non pas en désacralisant les lieux du livre, mais plutôt en faisant en sorte que tout le monde puisse avoir ce sacré-là. Et il n'y a pas de souci, sacré, ça ne veut pas dire happy few, ça ne veut pas dire petit nombre, ça ne veut pas dire élitisme. Le sacré, ça veut dire concentre-toi sur ta personne et c'est toi-même, en faisant des efforts tout seul dans ton coin, tu peux y arriver à t'élever, non pas dans la sphère sociale, mais contre la sphère sociale, du coup. Et pour ça, il faut travailler son introspection, quoi.
Le livre a une manière de délivrer un message qui est plus profonde, où il demande plus d'attention. C'est ça qui ferait la différence avec, par exemple, je sais pas, une vidéo sur Internet pour les quilombos. Le livre, il est sacré en tant que ça, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'émancipation sans le livre.
Exactement, j'aurais pas dit, mais il n'y aura pas d'émancipation sans le livre. En fait, la grosse différence avec les autres moyens de communication, quels qu'ils soient, c'est que le livre n'offre pas de stimuli, ni auditifs, ni visuels. C'est l'individu lui-même qui va chercher, qui décode et qui prend le temps qu'il veut, le temps qu'il peut, pour décoder ce qu'il a sous les yeux. Pour intégrer, pour comprendre, pour réfléchir, pour remarquer, pour savoir où il en est lui-même par rapport à ses propres expériences, sa vie, par rapport à ce qui est dit dans le livre, etc. Ça, c'est complètement à rebrousse-poil des vidéos qu'on trouve sur Internet ou même de la radio, pourquoi pas.
Donc la radio, c'est pas suffisant. Faut aller à Quilombo ou à Publico.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures repoussées quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linges sales et chagrins. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve
s'achève. Dès que je lis le mot fin, voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. À voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi je subis les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter. Brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto-da-fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit. Ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. Puis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans.
Voilà, c'est Juliette Noureddine à voix basse. On revient sur l'interview à propos de l'assassinat des livres. Tu voulais aussi préciser que ce qu'on parlait, le rapport social, c'était différent de ce qu'on appelle la convivialité, donc qui est beaucoup mise en avant dans les nouveaux lieux, les médiathèques, etc. Mettre des poufs par terre avec des ordinateurs, et puis des écrans aussi de temps en temps, et des cacahuètes au milieu, enfin je sais pas, par divers stratagèmes, des tapis, se sentir chez soi. Tu penses que ça, c'est pas du tout la même chose que le rapport social que tu décrivais au début de l'interview?
En fait, oui, cette convivialité sert essentiellement dans un cadre libéral, du libéralisme, à faire en sorte que les gens passent du temps ensemble les uns avec les autres et, coopèrent. Alors que le livre tel qu'on le met en avant à Quilombo, ça sert l'individu dans son intérieur. Et c'est pas du tout la même chose, du coup, le rapport social qu'on entretient à Quilombo, où on pousse les gens à se cultiver par eux-mêmes et à sortir de leur gang par eux-mêmes, que la convivialité qui se trouve mise en place dans les médiathèques, par exemple. C'est totalement l'opposé, en fait.
Ça veut dire que dans un cas, on donne les clés, il n'y a pas forcément, de choses pour aller vers la facilité. C'est plus un niveau d'exigence, c'est ça que tu veux dire?
Voilà, exactement. C'est soi-même, à soi-même de faire l'effort de chercher par soi-même où on en est, etc., pour pouvoir en sortir.
Est-ce que pour autant, le Quilombo, c'est convivial? Quand on vient, on est bien reçu on peut acheter du jus d'orange, on peut aller aussi dans les débats, écouter des choses, voir de temps en temps des projections au CICP. Il y a quand même cette volonté-là d'aller vers les gens, mais tu penses que c'est plus exigeant? C'est-à-dire que les gens, ils y vont pas forcément par facilité, mais par intérêt, par une étincelle de voir quelque chose d'intéressant, d'entendre un autre discours. Tu penses que c'est plus ça qui va attirer les gens de Quilombo?
Oui, clairement, nous, on ne met pas en exergue, par exemple, de partage de jeux vidéo. On n'a pas de canapé en cercle là où les gens vont picorer des cacahuètes en discutant de ce qu'ils veulent. Ça, on ne le fait pas chez nous, par exemple. Si on met de la musique, tu vois, c'est que de la musique à très faible volume, et la plupart du temps, il n'y en a pas non plus. Quand les gens ils viennent chercher un livre, moi, ça m'a toujours interrogé quelque part. Mais en général, c'est très silencieux, les gens chuchotent. Et je dis, oui, mais on n'est pas dans un musée, pourquoi vous chuchotez? On peut parler normalement. Et en fait, c'est une démarche très introspective, encore une fois, qui fait que, voilà, il y a besoin de calme, il y a besoin de se respecter soi-même, de respecter les autres et d'y aller tout doucement. Et ça, c'est tout l'inverse de ce qu'on trouve ailleurs. Malcolm Garvey Huey,
organize everything I do's revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. I study Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey, Marcel Cody with the Uzi, listening to Fela Kuti. I'm a goon with the machete, especially if it's deadly. Got the Santos for the Hexy to protect me, so respect me. This is heavy, legendary, revolutionary. My wifey, she resurrect me when they thought they had me buried. Took me out the cemetery, now it's family over every, cause it's all that's necessary to avoid the commissary. I'ma live for you five, so I stop getting high. If you know, then you recognize it's that black and brown pride. This the power of the mind, RBG, God divine. You can see through the lies if you could read between the lines. I live, I die, I organize. Everything I do, revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey.
Malcolm Garvey Huey, Bungie Bobby, packing Tookie. Sitting by the door so you can say I'm acting spooky. Just like in the movie, son, you better pack your tule. Niggas wish be acting fruity, you'll be cracking like they pookie. Rather smoke a doobie than be burning and eluding. Bang, bang, pig shooting, we should blame Rudy Julie. Yanny for the camera, shine a white and nose candy. Let you banging on the system, you a gangster wearing panties. RBG, my family, from the Bronx to Miami. Police cannot stand me, Pacquiao like a Manny. Call me little Bobby Hutton, cause I'm first to push the button. Rappers don't be saying nothing to the system, we say fuck 'em. This is for Nahanda, Mama C, Mama Akua. All the real OGs, I'm a soldier, cause you told me study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, I'm reporting in the duty.
Sticky, icky, yours truly here for duty. Don DeVito, M.A. Uno, you know how we drop the jury. This is real, not a movie, not Mickey, Donald, Goofy. I'm a soldier, I avoid a bitch nigga like the cooties.
School face in a hoodie.
Fresh pair of khakis, we could do this like we fam. I go to war like the Apaches. For whatever, I stay ready. I learned that in Tallahassee. Baba Toon, they used to school me as a juvie, skipping classes. Never let the system use me. My duty is my passage. Watch the homies in your army, they don't always show their badges. Keep your family living healthy. Teach your children about their blackness. Teach your wifey how to use the ratchet. This shit is classic. Get your food, clothes, and shelter. Fuck the system, pimp it backwards. I ain't hating, I'm just saying. If you wanna be a rapper, study
Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey.
A tactical approach is designed to get certain results. It's designed to keep you alive. It's designed to bring about victory.
Lisez Marcus Garvey Huey, c'est une chanson de Dead Prez. On revient sur la dernière partie de l'interview de Bastien de Quilombo.
Et là, on va parler du possible assassin du livre. Quoique à chaque fois, on a l'impression que le livre résiste, parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaye de nous mettre l'e-book. Il y a eu plusieurs échecs commerciaux. Là, on a quand même l'impression que c'est quelque chose d'assez général, avec les tablettes et les e-books avec l'encre électronique. Pourquoi ? Alors, je vais faire l'avocat du diable complet. Alors, pourquoi s'opposer à la diffusion massive de textes qui peuvent être révolutionnaires, par exemple ?
essentiellement parce que la lecture sur écran par électronique, la lecture en papier, c'est pas du tout la même chose. On n'acquiert pas les connaissances de la même façon quand on les lit sur écran ou sur papier. Donc rien que pour ça.
La lecture face à un écran est différente.
Oui, 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 elle est. Parce que là, on le constate, on en discutait un peu tout à l'heure, mais les liseuses strictes sont en perte de vitesse et de plus en plus, elles sont remplacées par des tablettes qui sont multifonctions. Et c'est un gros problème parce que ça favorise complètement la dispersion de l'attention, etc. Et le fait, ne serait-ce que sur une tablette. Pas sur une tablette, pardon, sur une liseuse, le fait d'avoir des liens hypertextes partout, ça brouille aussi complètement l'attention.
En fait, on dirait que c'est presque l'avantage du livre, c'est d'être monofonction, quoi, d'avoir une seule fonction et pouvoir. Voilà, il faut aller jusqu'au bout.
Exactement, c'est consacré uniquement à la lecture. C'est une activité dédiée. Quand on lit, on avance à son rythme, mais on ne fait que lire. Et ça, ça change tout.
Après, il y a un argument qui dit aussi que on peut pas, voilà, on peut pas passer outre cette évolution. C'est une évolution, voilà, comme il y a eu l'imprimerie, avant il y avait l'écriture, et maintenant il y aurait le livre électronique.
Ouais, je suis pas d'accord avec cette affirmation dans le sens où cette évolution-là, du passage du livre papier au livre électronique, est due à la numérisation globale de la société, qui est complètement différent de l'imprimer ou de choses comme ça, parce que là, ça fait en 25 ans et il y a tous les pans de la vie qui sont en train de tomber dans le domaine numérique. Et du coup, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut impérativement se questionner, ne serait-ce que dans un but d'émancipation, de recherche d'émancipation, de liberté, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Tout le monde est en train d'obtempérer un espèce de diktat latent, et en se faisant les avocats du diable, en reprenant des arguments nauséeux. Non, ben non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, la littérature papier, pour moi, c'est irremplaçable. Tu parlais de l'imprimerie, mais l'imprimerie, c'est 1454, si je ne m'abuse. Ça fait quand même quelques siècles et c'est toujours aussi pertinent. Donc pourquoi changer quelque chose qui marche ?
Il y a aussi l'idée que on est dans la société du livre et que voilà, passer au-delà, alors de manière multiforme, d'avoir un super livre, etc., ça serait changer de société. Et voilà, il y avait aussi cet argument de dire que c'est une société, voilà, qui fonctionne, qui est, enfin, mettre la fin du livre, on ne sait pas vers quelle société après on construit.
Oui, c'est une société de consommation à outrance. Il y a, d'après ce que je connais, il y a essentiellement deux pays où le livre électronique marche plutôt bien. C'est aux États-Unis et au Japon, qui sont des sociétés occidentales très technologisées et très axées sur la consommation de masse. Et voilà, ce qu'on cherche à faire, manifestement, c'est à retirer l'usage de son intériorité à l'individu pour en faire un mouton producteur et consommateur et qui ne se pose pas de questions. Du coup, moi, pour moi, le livre, clairement, c'est un objet de résistance à cette dépersonnification, massification.
Ça me fait penser qu'il y a déjà eu des attaques sur le livre, on se souvient de la politique du prix unique, qui est presque unique dans le monde, hein, et qui a permis de sauver pas mal de librairies, donc de lieux, comme tu disais, de résistance sociale, enfin de lieux de lien social, qui se sont maintenus et qui continuent, voilà, d'avoir des. Donc, Quilombo et Publico sont les exemples, hein, de lieux aussi qui permettent après des perspectives politiques ou de création, voilà, en tout genre. Voilà, est-ce que tu imagines finalement un monde, donc on en parlait au début, un monde où les bibliothèques ou les librairies seraient uniquement des bornes avec des e-books, où on viendrait télécharger son e-book?
Non, non, ça c'est clairement pas possible, parce que le consommateur, qu'il faudra bien appeler consommateur à partir du moment où ce ne sera plus un lecteur, où ce ne sera plus un client, où ce ne sera plus une personne avec qui on aura une relation sociale, ce sera juste un consommateur. Le consommateur, il ira au plus simple. Et le plus simple, ce sera plutôt que d'avoir des bornes où il faudra descendre dans la rue, traverser la rue, machin, et aller dans un magasin et télécharger sur une borne. Le plus simple, ce sera évidemment d'aller sur un site internet où il y aura exactement la même chose. Donc pour le lecteur, le consommateur sera beaucoup plus évident, beaucoup plus simple. Donc ça y a marché. Donc les librairies, quand il n'y aura plus que des bornes électroniques, elles n'existeront plus.
Déjà, il y a pas mal de gens qui passent par Amazon, qui est un des plus gros concurrents des librairies actuellement.
Oui, Amazon nous fait du tort, ça, on ne peut pas le nier. Et ça marche bien, et les gens sont très contents de recevoir leurs livres 24 ou 48 heures après l'avoir commandé, etc. Mais bon, la réalité sociale qu'il y a derrière...
Après moi, j'ai des amis, des collègues qui utilisent Amazon, et leur argument, c'est de dire, après, on me propose automatiquement mes goûts, quoi. Enfin, moi, je suis fan de polar, et j'ai des polars exactement qui correspondent à mes goûts, donc j'ai pas besoin du libraire, quoi. Je peux m'en passer. C'est en tout cas ce que j'ai entendu.
Eh bien, en même temps, qui sache, alors tu lui diras à ton ami que s'il vient contre toi des vrais libraires, les vrais libraires retiennent le visage de la personne et ses goûts, ce qu'il vient chercher. Et nous, quand on a affaire à des clients réguliers qui viennent ici, on sait ce qu'ils viennent chercher et on leur propose des trucs en conséquence. Et c'est quand même, à mon avis, bien plus sympathique d'avoir affaire à un être humain qu'à un algorithme.
Ouais, et puis surtout, l'algorithme n'est pas fait pour... émanciper, mais plutôt pour redonner exactement la même chose, ce qui est un peu triste aussi qu'on a ça, de voir qu'un ordinateur est capable de nous donner exactement ce qu'on veut, mais ça va pas vers une évolution. Quelqu'un qui a tout lu peut dire écoute, ouais, t'es gentil avec tes bouquins de polar de telle tranche, mais il y a des choses beaucoup mieux. Essaye d'intéresser à ça. Et ça, l'algorithme va pas le faire, puisqu'il se dit il va reproposer exactement la même chose.
Oui, il n'est pas là pour ça, l'algorithme. Il est là pour savoir ce que le client a acheté les fois précédentes et ce qu'il pourrait acheter du coup les fois d'après. Donc, rester dans le même giron, proposer à peu près la même chose et surtout aucune découverte, aucun approfondissement, aucun pas de côté, rien. Alors que nous, le fait de disposer par exemple des livres sur table en librairie, ça montre bien aussi que voilà, s'il y a un tel bouquin qui t'intéresse, celui d'à côté, tu le connais pas, mais le titre peut-être qui va te dire quelque chose et que tu vas y jeter un œil, etc. C'est comme ça que ça marche aussi. Quoi.
C'est la même chose aussi avec les bibliothèques, je pense. Ouais. De se balader parmi des bouquins, ça permet de voir qu'il y a d'autres choses que ce qu'on recherche. Alors que souvent, Internet, on ne va pas au-delà de ce qu'on pense au départ. Donc, on a une simple confirmation de nos opinions, mais pas une ouverture. Après, il y a aussi des arguments de l'e-book qui fait qu'on la bataille est perdue d'avance un peu. C'est un peu dit, c'est-à-dire on n'arrête pas le progrès, donc on pense que c'est. Il peut y avoir des gens qui disent c'était une belle utopie de penser qu'on pouvait s'accrocher au livre papier. Maintenant, c'est terminé. Je pense à des maisons d'édition comme Agone, qu'on pensait très très proches de nous, mais qui parfois vont dire « Ok, mais il faut aussi se mettre sur ce terrain-là, sur le terrain de l'e-book. Est-ce qu'on ne peut pas être dans les deux en même temps, être à la fois dire vouloir préserver le livre et puis vouloir avoir quand même un catalogue en e-book ?»
Non, à mon avis, on ne peut pas être sur les deux terrains en même temps parce que clairement, le numérique est en train de bouffer le livre papier, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si on défend le livre papier, on peut tout à fait n'en avoir strictement rien à faire du numérique. Se situer sur les deux terrains en même temps, c'est se tirer une balle dans le pied, clairement. Et ça, pour moi, c'est l'absurdité totale.
Peut-être rappeler que le livre « L'assassinat des livres » pour ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde, rappeler qu'il n'y a pas que les librairies qui ont écrit des articles, qu'on fait des interviews, parce qu'il y a différentes formes. Hein. C'est un livre qui fait à peu près 500 pages, qui est assez énorme. Mais juste rappeler qu'il y a les auteurs qui s'expriment, il y a les maisons d'édition, il y a les librairies, il y a les bibliothèques, il y a les lecteurs, Donc ça, c'est aussi intéressant, voir ce qui s'est passé avec l'industrie du disque, ce qui n'est pas très fameux, en fait. Tous les petits labels, malgré ce qu'on dit, ils n'ont pas survécu. Donc malgré ce qu'on avait dit, l'ouverture, effectivement, les moyens de production ont été beaucoup plus simples, mais après, les moyens de vente étaient très difficiles, et finalement, c'est iTunes qui ramasse la mise, et les autres ont tout perdu. Donc de faire ces parallèles avec le cinéma, avec la musique et avec d'autres choses qui se dématérialisent. C'est presque la chose la plus difficile à dématérialiser, finalement, le livre.
Non, je pense que nous, ici en France, on a encore quelques belles années devant nous, même si les industriels n'ont pas encore mis la pression pour en terminer avec le livre au papier. Et quand ils la mettront, on le sentira passer, je pense. Mais là, pour l'instant, il y a encore des résistances culturelles qui font que le livre papier, ici en France, a encore de beaux jours devant lui. Est-ce que ça durerait éternellement? C'est pas sûr du tout.
Forçant sans cesse d'aiguiller mes gribouillages, roman d'apprentissage, pour me connaître davantage, je m'arrête sur les mots et choisis mon ancrage. Je me livre à vous, libre à vous de voir mes mots, de trouver l'ivresse, d'y chercher sens ou délivrance. Je me livre à vous, libre à vous d'y chercher sens ou délivrance. Pour me faire un bagage avant le prochain voyage, je parcours mes vieux chapitres en choisis des passages. Je crois que j'ai perdu la page où j'ai noté dans la main. Arrête de faire le pitre et surveille ton langage. Je me livre à vous, libre à vous de boire mes mots, de trouver l'ivresse, d'y chercher sens ou délivrance. Je me livre à vous, libre à vous de boire mes mots, de trouver l'ivresse, d'y chercher sens ou délivrance. Dans un mauvais polar, série noire, dernier livre ouvert au chevet de ma mère, recueil de poésie d'instants choisis, bouleversement du récit. Je me livre à vous, libre à vous de boire mes mots, de trouver l'ivresse, d'y chercher sens ou délivrance. Je me libre à vous de boire mes mots, de trouver l'ivresse, d'y chercher sens ou délivrance.
Souvenir d'un libraire, Jacques Plaine.
Pour un coup de tonnerre, ce fut un coup de tonnerre. La FNAC ouvrait sa première librairie à l'ombre de la Tour Montparnasse avec le plus beau stock de Paris, assorti d'une remise de 20%. La mort programmée de la librairie française était en marche. L'ensemble de la presse littéraire en fit ses choux gras. Bernard Pivot y consacra un ouvrez les guillemets, le seul jamais réservé à un sujet économique. Sur le plateau ce jour-là, André Essel, l'un des deux fondateurs de la FNAC, Robert Laffont, Henri Troya, Pierre Béarn, chef de file des libraires hétérodoxes, et moi-même qui représentais les autres, que la FNAC chiffra elle-même à 18 000 détaillants. Dans cette émission, chaque mot allait être disséqué, épluché, analysé, critiqué. Je l'avais donc préparé longuement, assisté de mon conseil en communication, Georges Chétochine. Son analyse était un peu plus simple. Essel était un redoutable débatteur. Aguerri par de nombreuses années de secrétariat national d'un organisme militant, il me dominerait dans la dialectique. De plus, son projet était inattaquable. La librairie annoncée serait la meilleure de Paris et la moins chère. En face, nous n'avions que notre bonne mine, notre compétence et notre amour des livres. Mais André Essel, c'était notre chance, pouvait perdre son sang-froid. Ça, c'était déjà vu. Je devais donc lui poser une question perfide, ce que je fis bille en tête. « Avec votre nom, vous ne pouvez que voler bien bas !» me lança-t-il furieux en guise de réponse. Oubliant tous les avantages qui les attendaient rue de Rennes, les téléspectateurs prirent alors en pitié les milliers de petits libraires à l'agonie, agressés par une multinationale dont le patron va jusqu'à railler le patronyme de leur président. 40 ans plus tard, André Essel avait toujours cette émission en travers de la gorge. Et dans « Jour de FNAC », le livre qui célébrait les 40 ans de son entreprise, il consacrait 2 pages aux 4 têtes de turc de sa carrière. Léon Gingembre, Jacques Lang, Jérôme Lindon et Jacques Plaine. Et réservait tout l'espace qui m'était destiné à cette fameuse émission pendant laquelle, 40 ans plus tôt, il lui avait simplement manqué un zeste de pondération.
Dans la forêt du building de béton armé, dans cette ville de l'an 1100, quelques années, sur le trottoir roulant 10213, dans mon scaphandre blanc, je respire à mon aise. L'oxygène au jasmin fabriqué au Japon. Paraît que dans le temps, portez pas de masque. Paraît que les enfants avaient de longs cheveux. Paraît que mes ancêtres vivaient au Pays Basque, courant dans la montagne, plongeant dans des eaux bleues. Paraît qu'en ce temps-là, il y avait des villages où les hommes jouaient aux boules à moitié nus. Paraît qu'il existait des animaux sauvages. Paraît même que l'amour n'était pas défendu. C'était avant l'immense éclipse. C'était avant l'apocalypse. C'était il y a bien, bien longtemps. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, dans mon studio, labo, grand cube de béton, au mur gris tapissé d'une couche de plomb, j'avale 3 pilules pour le repas du soir. Tout ça m'est octroyé gratis par le pouvoir. Car voyez-vous, je suis né dans une éprouvette. Il paraît qu'autrefois tous les enfants naissaient par le sexe des femmes. Ceci est étonnant. Moi j'ai pas de parents et je suis programmé par les ordinateurs pour vivre 40 ans. fumé des verres en jouant au prophète. J'ai lu quelques grimoires, je trouve ça idiot. C'était avant l'immense éclipse. C'était avant l'apocalypse. C'était il y a bien, bien longtemps. C'est de l'histoire ancienne. J'aurai tout juste 40 ans. Je prendrai 3 pilules et mon scaphandre blanc. Et puis je me rendrai au mouroir national. Il faut laisser la place aux jeunes, c'est normal. J'ai déjà de la chance qu'on m'ait donné la vie. Paraît que dans le temps, tout le monde avait peur de la mort, et pourtant on pouvait vivre vieux. Il y avait même des gens que l'on nommait docteurs et qui sauvaient des vies, c'est vraiment très curieux. Je ne suis pas programmé pour comprendre les hommes. De ce temps, ni les fleurs, la musique ou l'espoir. Peut-être s'il n'avait pas joué avec la dôme, peut-être je comprendrais, oui, mais il est trop tard. C'était avant l'immense éclipse. C'était avant l'apocalypse. C'était il y a bien, bien longtemps. C'est de l'histoire ancienne.
Il s'agit d'une chanson de Nickel-Ange, d'un album qui s'appelle « Repasser plus tard, mon ange gardien est en garde à vue ». On peut retrouver le son sur defo-sound.com.
L'écran, c'est nous. Regarder une lampe qui clignote 50 fois par seconde, on reste pas longtemps devant. Mais quand même, la télé, c'est exactement ça. Je suis Peter Antel, je suis cinéaste. J'ai fait des films de long métrage pour montrer, bon, plutôt des films de réflexion, en espérant que j'ai provoqué quelque chose. Ouais, chaque personne a quelque chose à dire, parce que c'est pas tester sur des autres, c'est tester sur nous. Notre propre regard vis-à-vis de notre comportement, etc., quand on passe tellement d'heures devant un écran. Et bien sûr, il y a des effets extraordinaires avec des conséquences qui vont très loin. On peut mesurer avec des électroencéphalographes pour voir les fréquences, parce que le cerveau est électrique. Et on peut tout de suite voir s'il y a beaucoup d'activité ou pas. Ce qu'on a constaté des experts, quand on est devant la télévision, on a des yeux ouverts, on écoute, mais il y a un ralentissement du cerveau. Il y a un ralentissement du cerveau. Et moi, je peux dire personnellement, quand je vais au cinéma, je peux être tout à fait critique. Je peux sortir d'un film qui était absolument stupide. Et ça, je sens critique. Je peux parler beaucoup, beaucoup. Je vois le même film à la télévision. Je n'ai rien à dire. Je suis là, avachi devant l'écran. Je dis rien. Je dors devant l'écran. On reçoit cette lumière. On n'a pas vraiment la faculté d'être critique, d'être observateur des situations, parce que l'écran, c'est nous, parce que lumière réfléchit directement sur nous et on reçoit ça comme l'écran. C'est un tatouage, en fait. L'écran, c'est nous. C'est pas pour rien que c'est une industrie qui vaut des milliards. Bien sûr, s'ils achètent à tel prix une seconde à la télévision, C'est parce qu'ils savent que ça marche. Eux, ils savaient très très bien qu'il y a quelque chose qui dépasse simplement le contenu, que l'appareil induit un comportement physiologique. Pourquoi ? On n'a jamais vu ça en face. Pourquoi on n'a pas fait face à ce genre d'évidence ? On n'a jamais vu ça en face. Au niveau du son qui vous intéresse à la radio, il y a toujours les sons qui sortent de ces appareils, tout le temps. Et si on coupe avec la télécommande le son d'une télévision, quand même, il y a toujours le et 10 000 Hz, tout le long. Et pour moi, c'est inimaginable que ces sons n'ont pas un effet, parce que si on passe 2-3 heures devant la télé, il y a toujours, pendant 2 heures, il y a...
Tu me racontes. prendre pour rire. Resserre-moi un verre, qu'on efface tout souvenir. Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre, que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, je sais à quelle heure partir. Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que le jour se lève avant de m'auto-détruire.
On va passer aux infos, des infos qu'on peut récupérer notamment sur parislutte.info, qui est un site libertaire qu'on soutient. Il y a certaines infos sur l'autre site d'information qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle Démosphère, voilà, qui comme par hasard, ne sont pas présentes. Donc je soutiens, si vous cherchez des infos sur tout ce qui est Tibet, Syrie et Russie, vous ne les trouverez pas sur Démosphère. Donc il faudra aller sur paris-lutte.info. Voilà, je le dis parce que c'est pas forcément très clair, même s'ils ont une charte qui souligne qu'ils ne font pas de manifestations voilà, sous prétexte qu'il y aurait seulement un seul impérialiste, l'impérialiste américain. Enfin, c'est comme ça que moi je le comprends. Pour eux, c'est de ne pas soutenir des choses qui seraient aussi soutenues par l'OTAN, bon, ce qui est un peu étrange. Qui est très discutable, mais bon, donc c'est à savoir. Si vous voulez des infos sur des luttes comme ça, allez plutôt sur parislutte.info et allez sur la partie agenda. Et d'ailleurs, soutenez ce site internet en allant. Donc, une première info, c'est le bal masqué de soutien à parislutte.info. Donc, venez masquer. Et c'est à partir de 19h qu'on. Voilà, il y a des animations, il y aura de la bouffe sur place et il y aura un concert notamment d'Hortense, et ça se passera à l'Attiéké. Donc l'Attiéké, ça se trouve au 31 rue Marcel Samba à Saint-Denis. Donc je rappelle, c'est samedi 31 octobre à 19h. Ensuite, pas loin, donc 4 places Paul Langevin au local de la Dino. Dioniversité, il y aura un débat autour du film Je lutte donc je suis de Yanis Loutounas, et donc ça c'est à 19h30. Donc voilà, vous pouvez commencer par le film et en plus aller au bal masqué par la suite. Le dimanche 1er, donc voilà, encore quelque chose qui ne sera pas sur le site de Démosphère. C'est la marche mondiale pour Kobané, donc soutien aux Kurdes, voilà, qui lutte à la fois contre l'État islamique et contre Bachar el-Assad, et plus récemment contre l'État turc. Ils sont un peu sur tous les fronts et en difficulté, donc il y a pas mal de soutien. Donc c'est aussi, on peut le dire, des champs qui sont proches voilà, d'une organisation horizontale, voilà, qui s'inspire de libertaires. Donc voilà, venez soutenir et vous informer sur la lutte qui se passe actuellement au Kurdistan en Syrie, sur l'ex-territoire de la Syrie. Et donc c'est à Bastille, à Paris, le 1er novembre. Donc voilà, pour cette première partie des infos, on va continuer un peu plus tard. En attendant, je vais passer un morceau d'un rappeur qu'on connaît bien, puisqu'on l'a invité plusieurs fois, qui s'appelle L'Inconsolable, et qui vient de sortir un nouvel petit album, voilà, qui est à prix libre à partir de 5€ sur son site internet. Donc, on peut avoir le lien sur son site internet. C'est L'Inconsolable, ça s'écrit L'1. Consolable, voilà, C-O-N-S-O-L-A-B-L-E. Et il a sorti un nouveau petit album qui s'appelle L'Inconsolable et qualifié. Voilà, c'est un rappeur qui écrit beaucoup, qui est très prolifique et qui voilà, fait un mini-album sur le thème des adjectifs. Et on écoute la chanson qui s'appelle Libre.
À la maison, on m'a dit fais ça, reste là, tais-toi. Tu feras ce que j'ai dit tant que tu seras sous mon toit et pas chez toi. À grailler ce qu'on t'a fait, t'as intérêt à obtempérer, te résigner à jouer avec les jouets qu'on t'achètera. Les vêtements que tu mettras, tes parents que tu aideras, les choses qu'on te permettra et celles pour lesquelles on cédera pas. Et les activités que tu ne pourras pas éviter, au risque de vite nous irriter, sont nos choix, tu les respecteras. Chez moi, on m'a commandé toute ma
ma vie, mes envies. On m'a demandé, faire sans demander mon avis. On m'a dit que c'est grâce à l'argent de mes parents que j'étais en vie. Même si je n'étais pas ravi, ce serait pire si je m'étais enfui. On m'a dit comment me tenir, les diplômes à obtenir. Combien d'ans il me faut tenir pour avoir un métier d'avenir. Ma famille m'a donc dressé, blessé, laissé. Entendre que d'autres parleront pour moi sans savoir ce que j'ai à dire. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes choix toujours sommés. D'être celui qu'on a fait de moi, celui que je connais. Qui c'est, qui je serais, si le choix on me l'avait donné. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes envies toujours sommées. D'être celui que je suis aujourd'hui, celui que je connais. Qui c'est, qui ben, je vous aurais donné. Mais à l'école on m'a dit tais-toi, fais ci, fais ça, assieds-toi. Dessine pas sur les tableaux, les nettoie. Et tes devoirs, fais les voir dès le départ. T'es bébard, t'es chez toi, toujours des devoirs à faire pour la prochaine fois. Comme si tu passais pas assez d'heures en classe. L'école est finie, bah non car on la remplace. Ensuite on s'agace que tu puisses pas tenir en place. On les mandate mais que veux-tu que tes parents fassent. Hélas en classe on t'impose la matière, la manière de la parfaire. Car on sait mieux que toi ce que t'as à faire. La base de l'affaire n'est pas de savoir si ça va te plaire. Ni si tu galères, mais à combien s'élèvera le salaire. Tu dis que t'es pas d'accord, bah oui maison. Te dis que d'accord ou pas, ici le prof a toujours raison. L'éducation nationale avec tout son arsenal. Prépare au diktat patronal, t'es docile en toute saison. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes choix toujours sommés. D'être celui qu'on a fait de moi, celui que je connais. Qui c'est, qui je serais, si le choix on me l'avait donné. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes envies toujours sommées. D'être celui que je suis aujourd'hui, celui que je connais. Qui c'est, qui peut-être, je vous aurais donné. J'ai un boulot, oui mais j'ai pas tiré le brolo. Je suis au bout du rouleau, on m'a roulé, je suis qu'un prolo. La tête sous l'eau, je suis saoulé comme un alcoolo. Le taf c'est comme la colo, mais en beaucoup moins rigolo. On me dit que t'es consigné, on me crie dessus, on me prime et on me flic. Car on se dit que je ferais pas bien le taf solo. On me dit que je suis moins pro et moins efficace qu'un robot. Poto, tu vois le topo, je me dis je me casse et je crie YOLO. Oui mais j'ai repris mes esprits, me tirer de l'âge, payer le prix, de voir essuyer le mépris des gens moraux. Et comment paierai-je mes crédits, comment ferais-je avec les petits asservis par mon appétit pour l'euro. T'as si me plat coincé ici et même si ça me terrifie que le patron se déifie se prend pour un héros. Et même s'il nous humilie, il nous utilise, on le subit. Oui fais ce que lui dit, je reste auprès du chuc un pléro. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes choix toujours sommés. D'être celui qu'on a fait de moi, celui que je connais. Qui c'est, qui je serais, si le choix on me l'avait donné. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes envies toujours sommées. D'être celui que je suis aujourd'hui, celui que je connais. Qui c'est, qui peut-être, je vous aurais donné. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes choix toujours sommés. D'être celui qu'on a fait de moi, celui que je connais. Qui c'est, qui je serais, si le choix on me l'avait donné. Les autres m'ont toujours zoné, emprisonné. Toujours isolé, mes envies toujours sommées. D'être celui que je suis aujourd'hui, celui que je connais. Qui c'est, qui peut-être, je vous aurais donné.
Voilà l'inconsolable sur Radio Libertaire. Voilà, vous pouvez retrouver cet album en prix libre à partir de 5€ sur son site. Ça s'appelle l'inconsolable, c'est écrit avec un L'apostrophe 1. Voilà, donc on revient sur les infos. Il y a la chorale Libertaire. Qui commence à partir du dimanche 1er novembre. Donc ça se passera à la CNT. Et voilà, c'est chaque premier et troisième dimanche du mois. C'est de 16h à 18h. C'est au 33 rue Vignoles, dans le 20e Paris Métro Avron. Et voilà, c'est dans le lieu, vous connaissez sûrement, c'est la Confédération Nationale du Travail, c'est-à-dire la CNT. La CNT Vignoles en l'occurrence, voilà. Donc je répète, dimanche 1er novembre à 16h30. Les projections du film Qui a tué Ali Ziri continuent. Le prochain rendez-vous, c'est le 6 novembre à 20h30. Voilà, c'est en banlieue, c'est à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le cinéma Utopia, donc voilà, un cinéma militant. Et il y aura, c'est une soirée voilà, en présence d'Omar Slaouti et du collectif Vérité Justice pour Ali Ziri. C'est soutenu par plusieurs partis politiques et aussi Alternatives Libertaires et le collectif antifasciste 95. Et le 24 novembre, à Montreuil, le Méliès va aussi diffuser ce documentaire. Donc voilà, un documentaire qui a été fait de manière autonome et voilà, qui a été soutenu par le collectif voilà, de Vérité Justice pour Ali Ziri. encore une autre date, le 16 novembre, à 18h30 au Trianon, à Romainville. Et ce sera une rencontre avec le réalisateur, Luc de Caster sera présent. Et encore une autre date, donc c'est un peu plus loin, c'est le 27 à Cher au cinéma Pandora, donc voilà, plus loin dans le nord. Et dans le sud, il faudra attendre le 30 novembre à Ivry au cinéma Luxe.
Je me revois main dans la main avec ma mère dans les manifs, les piquets de grève, les camarades syndicalistes, avec les étudiants qui brodent des peace and love sur le futal, pour que cesse la guerre du Vietnam. Les gens se battaient pour les autres, cause commune, depuis les idéaux sont morts, fosse commune, aux antipodes de la plénitude. Comment rallier le peuple si on incendie ses véhicules? La confiance mutuelle maigrit, pour ce pays les qualificatifs aigris, cette amertume se lit dans les forums, où tous les sujets ont le clash pour décorum, où on jette de grandes phrases sans instruction, répondant seulement à la culture de la destruction. Il n'y a pas que Big Brother qui te fixe, y a tous tes voisins en loose qui t'épient et te flic, ouais. Yes, little brother is watching you. Little brother is watching you.
His little brother watching you. His little brother watching you. His little brother watching you.
Mon père qui a pris l'eau avant sa petite pas.
His little brother watching you. His little brother watching you. His little brother watching you.
Mon père qui a pris l'eau avant sa petite pas.
Tout le monde a un avis sur tout et n'accepte pas que les autres en aient. Alors les mots se transforment en clous, crucifiés parce que différents. La paranoïa prend le pas, on fuit les sujets qui dérangent. Vraiment, on ploie sous les postiches et l'illusion des bouches sur révolution en plastique. Les fachos déguisés en démocrates, les criminels en hommes pieux théocrates marchent dans le rang, les consorts regardent, sans limite la haine et la jalousie les gagnent. Nos dirigeants n'ont pas compris que le mal est mondial, quand depuis 15 ans les extrêmes ont colonisé la toile. Autoflicage, bactéries qui se dédoublent, tous les tubes uniformisent les coups. Et nous, au milieu de tout ça, on n'a pas d'horizon comme un jeune de 20 ans à Gaza. Dans ce cas, le silence est utile, quand les débats sont dans les mains des ignorants débiles. Je prie de tout cœur qu'enfin le bug vienne, qu'au moins s'écrase un temps tous ces moutons qui bêlent. Petit chef, petit juge, petit flic, principe léger, quand vient le pouvoir ou le fric. Big Brother ne mourra pas, on limite, les séquelles ne disparaîtront pas de si vite.
Qui a pris l'eau avant sa petite pas.
His little brother watching you. His little brother watching you. His little brother watching you.
Mon père qui a pris l'eau avant sa petite pas.
His little brother watching you. His little brother watching you. His little brother watching you.
Mon père qui a pris l'eau avant sa petite pas.
His little
Voilà, Akhenaton dans son dernier album Je suis en vie, Little Brother. C'est la fin d'Offensive. Nous, on se retrouve dans 15 jours. On est donc un vendredi sur deux de 21h à 22h30 en alternance avec les amis d'Orwell. Donc, la prochaine émission sera mi-novembre. On va essayer de faire une autre émission sur le livre de l'échappée qui s'appelle L'assassinat des livres, en parlant voilà, d'autres secteurs, notamment celui de l'édition. Donc voilà, vous pouvez retrouver nos émissions sur le site de la BAM qui se trouve à www.b-a-m.org et vous allez sur la catégorie radio et vous trouvez toutes les émissions d'offensive sonore. Voilà, les dernières contre l'agisme, sur l'invention de la science, sur la Crimée. Sur le forum de l'écologie radicale, certaines émissions aussi de, des amis d'Orwell qui sont présentes. Voilà, c'est le site de la BAM, la Bibliothèque Associative de Malakoff, qui très souvent organise des rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est d'ailleurs le prochain rendez-vous. Le rendez-vous qui a eu lieu le plus récemment, plutôt, puisque c'est déjà passé, c'était ce vendredi. Et c'était une soirée sur Gyumri, Arménie, si loin du ciel, en présence des auteurs. Mais il y a régulièrement des ateliers de lecture, des ateliers, il y a des séances cinéma. Donc si vous habitez le sud de Paris, renseignez-vous sur ce lieu qui se trouve à métro Malakoff rue Étienne Dolet, sur la commune de Malakoff, qui est un lieu et une bibliothèque associative où vous avez la plupart des ouvrages libertaires. Il y a actuellement pas mal d'ouvrages et il y a des ateliers qui sont sur des ateliers ludiques, des ateliers de couture et des séances cinéma voilà, à peu près une fois par semaine. Un peu moins en ce moment, voilà. Donc je rappelle, c'est la Bibliothèque Associative de Malakoff qui je vais essayer de trouver l'adresse rapidement qui se trouve voilà au 14 impasse Carnot donc voilà métro, ligne 13 Malakoff Étienne Dolet. Et il y a pas mal de choses. Vous pouvez aussi atteindre cette librairie par le train transilien Vanves Malakoff. Et c'est aussi à côté de Montrouge. Voilà, il y a pas mal de transports, des bus, etc. Je ne vais pas faire la liste. En tout cas, le site internet pour retrouver nos émissions et le calendrier de la Bibliothèque Associative de Malakoff, c'est b-a-m.org. Donc, offensive sonore, c'est terminé. À dans 15 jours.
Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis. Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livré, grandi et fleuri, dansant et livré, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne.